Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, début de la vaccination contre le coronavirus en République démocratique du Congo la semaine prochaine. Le ministre de la Santé l'a annoncé ce mercredi à Kinshasa lors d'une cérémonie de remise de 1,7 million première dose de vaccin au dépôt des vaccins et d'autres produits médicaux à Kinkolé dans la commune de Lancélé. Le CAFCO salue l'élection de 3 femmes au bureau du Sénat pour la présidente du cadre permanent de concertation de la femme congolaise que vous écouterez dans ce journal. Le combat doit se poursuivre pour une meilleure représentativité des femmes dans les autres institutions. Abdourahman Ganda est notre invité. Le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO, Benny Boutembo Lubero, explique les raisons de l'atterrissage ce mardi d'un hélicoptère de la MONUSCO à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, une situation qui a été à la base d'une panique au sein de la population. Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal. La République démocratique du Congo lance la campagne de vaccination contre la Covid-19 dès la semaine prochaine. Le ministre de la Santé l'a annoncé ce mercredi à Kinshasa lors d'une cérémonie de remise de 1,7 million première dose de vaccins au dépôt des vaccins et d'autres produits médicaux à Kinkolé dans la commune de Lancélé. Jean-Pierre Elali Coco pour le reportage.
Ces premières doses d'AstraZeneca ont été officiellement remises au gouvernement par le truchement du ministre de la Santé. Ces dons de l'OMS et de l'UNICEF entrent dans les cadres de l'initiative COVAX, une initiative internationale visant à assurer l'égalité d'accès aux vaccins à travers le monde. Le ministre Eteni Longondo a rassuré les Congolais sur l'efficacité et la validité du vaccin.
Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à ces vaccins ici. Mais nous disons au peuple congolais ceci. Le gouvernement ne peut pas homologuer un vaccin qui va tuer le peuple congolais.
Avant d'appeler les Congolais à se faire vacciner.
Je demande aux Congolaises et Congolais de se faire vacciner. Même si la vaccination est volontaire, il faudrait plutôt penser à votre vie. La vie n'a pas de prix. Faites-vous vacciner.
Les représentants de l'UNICEF et de l'OMS ont, dans un élan de solidarité, promis au gouvernement leur appui à la campagne de vaccination. Notons que la RDC est le 4e pays à recevoir les premières doses de l'initiative COVAX après le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. 20 autres pays africains se trouvent sur la liste des bénéficiaires.
C'est plus de 1,7 million de doses du vaccin AstraZeneca réceptionnées hier à l'aéroport international d'Unjili ont été expédiées par l'intermédiaire de COVAX. C'est le fruit d'un partenariat entre la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, CEPI, Gavi, l'UNICEF et l'OMS. Selon un communiqué conjoint publié ce mercredi par le gouvernement congolais et tous ses partenaires, cette livraison fait partie d'une première vague d'arrivée qui se poursuivra dans les jours et les semaines à venir. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
D'après ce communiqué conjoint, la RDC s'est prononcée pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca qui répond aux conditions de conservation existantes dans le pays, c'est-à-dire entre 2 et 8 degrés Celsius. Un plan de déploiement du vaccin contre la COVID-19 en RDC a été validé par le pays et approuvé par l'initiative COVAX. Ce dernier prévoit, sur la base de l'analyse des données épidémiologiques et des orientations de l'OMS, la vaccination de 20% de la population. Il s'agit notamment du personnel de santé qui représente 1% de la population, des personnes âgées de plus de 55 ans 6% et des personnes souffrant des comorbidités, soit 13%. La RDC est parmi les premiers pays d'Afrique à recevoir ces vaccins. La vaccination nous permettra de protéger et sauver des vies. Nous devons encourager la population cible à se faire vacciner, a déclaré le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo. C'est en décembre 2020 que le gouvernement de la RDC avait introduit sa demande de vaccin contre la COVID-19. Le ministère de la Santé, par l'entremise du programme élargi de vaccination PEV, assurera les activités de vaccination contre la COVID-19 en site fixe sur l'ensemble du territoire national. Selon toujours le communiqué conjoint, la première phase d'introduction du vaccin pour l'année 2021 ciblera les 4 provinces de la RDC les plus touchées par la pandémie, à savoir Kinshasa, le Nord Kivu, le Congo central et le Haut-Katanga. Notez que la RDC attend au total 6 millions de doses de vaccins, souligne le communiqué.
Une montée des cas de coronavirus est observée ces derniers jours dans la province du Nord Kivu. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Docteur Nzanzu Salita, ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, justifie cette situation par les mouvements intenses des populations vers les pays frontaliers et Kinshasa via l'aéroport international de Goma. À cela s'ajoutent les mouvements internes en province. Docteur Nzanzu Salita le dit au micro de Florida Kahambu.
La montée en flèche des cas de COVID-19 en province Nord Kivu s'explique peut-être par deux phénomènes. Vous savez, la province a un grand aéroport international de Goma par où entrent plusieurs visiteurs. Et également, c'est un point de sortie pour les gens qui quittent les autres provinces, y compris la nôtre, pour se diriger soit à Kinshasa, soit dans d'autres provinces ou en dehors du pays. Alors, avec les tests de COVID voyage, c'est là que nous recrutons une bonne partie de nos malades pour la province et les autres malades sont aussi dans la communauté. Notre stratégie, c'est que tous nos décès en province sont testés, en tout cas la plupart. Mais en même temps, la maladie se propage dans la population, parce que les gens sont en mouvement de Goma à Beni, à Ituri, en Ouganda, en n'oubliant pas que les pays voisins ont aussi beaucoup de cas, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, même le Kenya. Or, nous fréquentons beaucoup ces régions et par moments, nous sommes contaminés par l'importation. C'est comme ça que nous justifions cette montée de l'épidémie en province Nord Kivu.
Notons que depuis le week-end, la moyenne des nouveaux cas en province est de près de 20 cas de Covid par jour. Le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu insiste sur le respect des gestes barrières contre cette maladie, notamment le port des masques dans les lieux publics, le lavage des mains à l'eau et au savon, mais aussi éviter les lieux de rassemblement. Je le disais en titre, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, salue l'audace de la femme qui a abouti à la présence de trois femmes au bureau définitif du Sénat. D'après la présidente de cette structure, Rose Mutombo, le temps n'est pas à dormir sur les lauriers, croyant être arrivé. Le combat doit se poursuivre pour une meilleure représentativité des femmes dans les autres institutions. Rose Mutombo qui essaie au micro de Jacques-Yves Molima.
Les femmes ont osé, elles ont exprimé leur ambition. Et elles ont obtenu les résultats escomptés. Aujourd'hui, on a atteint 42,8% de la représentation des femmes dans le bureau du Sénat, alors que dans la législature passée, on était à 0% de femmes. Nous osons croire que dans le gouvernement qui sera mis en place, on va quitter les 18% du gouvernement Ilunga Ilukamba pour aller au-delà de 30%. La lutte que nous menions ensemble pour la représentation des femmes commence petit à petit à porter ses fruits. Nous croyons qu'on ne doit pas se conforter du résultat et la lutte doit continuer au niveau des différents postes non électifs, notamment dans les entreprises publiques, pour qu'une participation effective des femmes soit atteinte.
Direction Nord Kivu, l'auditeur militaire de garnison près le parquet militaire de Rutshuru a été tué par balle hier mardi dans la soirée dans une embuscade d'hommes armés à Katale. Cette localité est située à environ 50 km de Goma sur la nationale numéro 2. Selon les sources sur place, un autre officier FARDC a été blessé durant cette attaque. Bernard Nyangi.
L'auditeur militaire des forces armées congolaises, le major William Assani, venait de Goma pour regagner son poste d'attache à Rutshuru quand le convoi qui l'accompagnait est tombé dans une embuscade au niveau de Katale, aux environs de 19h locales, affirment les sources civiles et militaires dans la zone. Selon ces sources, après un échange de tirs, l'auditeur a été tué sur le champ. Le colonel Lumbu, commandant du 34e 9e régiment, qui était chef du convoi, a été blessé dans la même embuscade. Le porte-parole de Sokola 2, qui confirme l'information, souligne que, jusqu'ici, l'identité des assaillants n'est pas encore connue. Le major Njike Kaiko note qu'il y a eu un mort parmi les assaillants, ce qui, d'après lui, pourrait permettre de remonter toute la filière pour identifier le commanditaire. D'autres sources à Rutshuru sont formelles. L'attaque a été perpétrée dans la zone contrôlée par le 34e 16e régiment FARDC, dont le quartier général est à Rumangabo, à moins de 10 km du lieu d'attaque. Le meurtre du major Assani aurait occasionné des révoltes au niveau de la base militaire de Rutshuru, où plusieurs tirs ont été entendus la nuit, indiquent nos sources. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
436 entreprises ont été sélectionnées sur les 1040 enregistrées dans le cadre du concours des plans d'affaires initié par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. La publication des entreprises retenues a été publiée ce mardi à Lubumbashi après une longue période de 6 mois. Les lauréats seront accompagnés et subventionnés dans le cadre du développement de leurs entreprises. Une aubaine pour les lauréats. Jean Gandou.
Le 436 entreprises concernent les villes de Kinshasa, Goma, Matadi et Lubumbashi. Ce sont les entreprises qui sont dans l'industrie légère, l'agrotransformation et les services. La ville de Lubumbashi compte une quatre-vingtaine d'entreprises qui ont été retenues. Pour en arriver là, les dossiers des soumissionnaires ont franchi plusieurs étapes, dont le contrôle de l'existence effective de l'entreprise, l'évaluation financière de l'entreprise et autres. Aimé Manyong, entrepreneur et une des lauréates, exprime toute sa satisfaction.
Ça, c'est un véritable coup de pouce. Je suis entrepreneur dans mon secteur. J'étais parmi les personnes qui ont impulsé dans les services faits. J'étais à l'étape de la rénovation, de l'innovation. Il me fallait maintenant adapter mes services au niveau des exigences actuelles du marché. Et pour moi, c'est une très bonne opportunité parce que ça me permet d'améliorer et d'aller de l'avant pour bien asseoir mon entreprise.
Pour les entreprises qui n'ont pas été retenues, des séances d'explication seront organisées en leur faveur pour qu'elles sachent pourquoi elles n'ont pas été sélectionnées. Les lauréates seront quant à elles accompagnées sur le plan technique puis subventionnées. À noter que le concours du plan d'affaires est une initiative du gouvernement congolais avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale et piloté par le ministère de la classe moyenne à travers l'unité de coordination du projet sur les micro, petites et moyennes entreprises. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Sud Kivu, les associations des pêcheurs du lac Kivu dénoncent les manœuvres dans la répartition des cages flottantes pour l'élevage des poissons sous le lac Kivu. Dans une lettre adressée à la direction du Fonds de promotion de l'industrie FPI, ces pêcheurs affirment que la distribution des 100 cages du programme des 100 jours du chef de l'État n'est pas conforme aux résultats des enquêtes. Emmanuel Elamejio Akabedi.
La Fédération des associations des pêcheurs du lac Kivu a adressé une lettre d'indignation à la direction du Fonds de promotion de l'industrie pour cette question. Selon les pêcheurs, la plupart des cages flottantes ont été distribuées aux personnes sans qualité ni expérience en tant que pêcheurs du lac Kivu. Soleil Kashinze Balegana, président de la plateforme des pêcheurs.
Nous sommes au regret de vous annoncer que presque tout l'argent affecté dans ce secteur de l'élevage des poissons au lac Kivu ont été détourné. Pour la première phase de 50 cages, le montant affecté était de $687,153. Le montant affecté pour la deuxième phase était de $1,374,000 pour 100 cages. De ces 150 cages détournées, seules 20 cages ont été ensemencées.
L'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, comme le FPI, rejette cette version des pêcheurs sur la distribution des cages flottantes du programme de 100 jours du chef de l'État. Le financement reçu par IITA aurait servi d'encadrer des jeunes entrepreneurs qui avaient même été formés pour ces programmes d'élevage de poissons. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Notez que l'Institut international de l'agriculture tropicale IITA, comme le FPI, rejette cette version des pêcheurs sur la distribution des cages flottantes du programme des 100 jours du chef de l'État. Le financement reçu par IITA a servi d'encadrer les jeunes entrepreneurs qui avaient même été formés pour ce programme d'élevage des poissons. Le collectif des 100 jeunes innovateurs et inventeurs venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et parmi lesquels 100 meilleurs projets avaient été primés en décembre 2019 se disent abandonnés par le ministère de l'Industrie. Ces derniers avaient formé un incubateur qui devait être accompagné pour concrétiser la vision du chef de l'État de créer 100 millionnaires à travers la République démocratique du Congo d'ici 2021. Les États-Unis avaient promis de disponibiliser 9 millions de dollars à travers l'ONUDI. Ce qui devait ramener le fonds déjà mobilisé à 11 millions de dollars. Selon Tommy Panzou, porte-parole de ce collectif, une année après, aucun dollar n'a été versé à ces jeunes entrepreneurs comme promis. On écoute Tommy Panzou, joint par Alain Irung.
100 jeunes inventeurs et innovateurs congolais, porteurs de projets innovants, se sont retrouvés le 18 décembre 2019 au fleuve Congo Hôtel sous l'impulsion du ministère de l'Industrie et de la Recherche Scientifique. À cet effet, un panier de récolte a été fait et a pu récolter près de 11 millions de dollars, 9 millions venant de l'ONUDI et 2 millions de dollars venant du FPI par l'entremise de leurs représentants, séance tenante. Mais à ce jour, une année et deux mois après, aucun de ces francs, aucun de ces dollars n'a été versé entre les mains d'un seul lauréat Masterclass. Nous demandons donc l'implication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samalou Koundé, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution et faire entrer tous ces Congolais dans leurs droits.
En réaction, le ministre de l'Industrie affirme n'avoir reçu aucun fonds de l'ONUDI à cause de la pandémie à coronavirus. Julien Paloukou appelle ses jeunes à la patience et promet d'organiser une rencontre à laquelle ils seront associés avec l'ONUDI pour confirmer ses propos. Julien Paloukou est joint par Alain Irung.
C'est d'abord un honneur parce que c'est le ministère de l'Industrie qui a réussi à identifier les jeunes inventeurs et innovateurs congolais à travers l'organisation de cette masterclass qui a eu lieu le 18 décembre 2019. Et l'ONUDI qui avait participé effectivement à cette grande cérémonie avait prévu de bloquer 9 millions pour soutenir le gouvernement congolais dans la quête de la mise en valeur de l'intelligence congolaise. Malheureusement, comme on était en décembre 2019, deux, trois mois plus tard, c'est-à-dire en mars, il y a eu ce confinement, il y a eu ce virus qui fait la une à travers le monde, qui a empêché à ce que le processus puisse être déclenché. Comme vous le savez, l'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. C'est de l'argent qui ne se donne pas de poche en poche. Ça suit un processus très long et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est cette COVID qui a empêché à ce que nous n'aboutissions au déblocage de cet argent qui ne devrait pas être logé dans le compte du ministère, mais qui devrait être géré par l'ONUDI à travers ses structures pour atteindre ses innovateurs, ses inventeurs congolais. Nous voudrions les appeler à l'apaisement et dire que d'ici là, nous pourrions organiser une rencontre entre nous, l'ONUDI et leurs représentants pour qu'ils se rendent compte qu'aucun sou n'a jamais été débloqué en faveur du ministère de l'Industrie.
Actualité internationale.
Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, a été de nouveau le théâtre lundi soir d'affrontements entre l'armée et les insurgés soupçonnés d'être affiliés à l'État islamique. Si aucun bilan n'a pour l'instant été donné, les Nations Unies ont condamné avec fermeté une attaque violente qui risque fortement d'affecter le soutien apporté à des milliers de personnes. L'opposant béninois Sébastien Adjavon, en exil en France, a été condamné ce lundi par contumace à 5 ans de prison ferme pour faux, usage de faux et escroquerie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin. Sébastien Adjavon avait déjà écopé en 2018 de 20 ans de prison pour trafic de drogue. Un de ses avocats, Maître Julien Ben-Simon, dénonce une nouvelle affaire politique. Il annonce aussi avoir saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander l'annulation de cette condamnation.
L'invité.
Notre invité est le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO à Beni, Butembo et Lubero. Abdourahmane Nganda explique les raisons de l'atterrissage ce mardi d'un hélicoptère de la MONUSCO à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, une situation qui a été à la base d'une panique de la population. Il parle également des opérations menées par les FARDC et la MONUSCO pour sécuriser la route Beni-Kassindi contre les embuscades des ADF. Il s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Abdourahmane Nganda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de bureau intérimaire de la MONUSCO Beni Butembo Lubero. Confirmez-vous l'atterrissage ce mardi avant midi à Oicha d'un hélicoptère de la MONUSCO?
Oui, nous avons un hélicoptère qui est atterri au stade de Oicha. Il est allé déposer des militaires sud-africains qui sont allés faire une opération de patrouille dans la zone. Donc je le confirme. Le premier message, c'est de rassurer la population. C'est des soldats de casque bleu qui sont allés pour la protection de cette même population. Donc la panique est arrivée, c'est malheureux. Je voudrais d'ailleurs saisir l'occasion pour expliquer comment cela est arrivé. Vous savez, les FARDC sont en opération. Nous-mêmes, la MONUSCO, depuis le samedi 27, nous avons lancé une opération spécifique pour dominer la route de Beni à Kassindi. Cela nous demande beaucoup de ressources matérielles et humaines. D'une part pour cette opération, mais de l'autre part en soutien aux opérations des FARDC. Donc dans cette zone, nous avons depuis longtemps patrouillé pour protéger la population, je veux dire la zone de Oicha, mais nous transportons les soldats en blindés. Mais tenant compte des opérations dont je vous ai parlé, qui demandent des ressources matérielles et humaines, nos blindés sont en train d'être utilisés ailleurs. Nous avons décidé d'héliporter les hommes, les amener jusqu'à Oicha et ils vont rentrer dans la forêt pour patrouiller. Nous l'avons fait en concertation avec les FARDC et la PNC. Dans notre entendement, c'est nos partenaires FARDC et PNC qui devaient informer l'administrateur du territoire et la communauté. Malheureusement, eux aussi, ils pensent que c'était à nous de le faire et l'information n'est pas passée. Donc la population étant surprise de voir nos militaires débarquer en hélicoptère, ceux qui n'ont jamais vu, ils ont paniqué et puis voilà, c'est arrivé. Ces gens-là sont allés pour protéger cette même communauté. Voilà, je rassure la communauté et nous avons pris bonne note, nous avons tiré les leçons. Prochainement, nous allons nous atteler à ce que l'information passe de la meilleure façon.
Donc vous confirmez que les FARDC et la PNC étaient au courant?
Affirmatif. FARDC et PNC étaient informés que nous allons patrouiller dans la zone et je répète, c'était une patrouille de routine. Mais c'est simplement le mode de transport des hommes qui a changé. D'habitude, on transporte les hommes par blindés, mais comme les blindés sont occupés à travailler dans la zone de Kassindi et puis dans les autres zones opérationnelles des FARDC, on a décidé de les transporter par hélicoptère. Les deux partenaires étaient au courant.
Une opération à laquelle les FARDC et la PNC prennent part également, opération de patrouille?
Ils ne prenaient pas part à cette opération de patrouille, c'est une opération de patrouille de routine. Ce genre de patrouille de routine, là, on a l'habitude souvent de le faire seul. On peut le faire seul sans eux, sauf s'ils demandent de venir. Ils sont déjà présents dans la zone, il suffisait de les informer, ce qu'on a fait.
Vous avez parlé de la domination par les casques blés de la route Beni Kassindi pour sécuriser la population. Exactement, depuis quelques jours, il s'observe des embuscades sur cette route-là. À part cette domination, qu'est fait la MONUSCO pour rassurer la population qui emprunte ou qui utilise cet accès routier?
Vous savez, la stratégie de l'ennemi consiste en réalité, l'objectif c'est de prendre cette route et couper Beni de l'approvisionnement venant de Kassindi. Et peut-être qu'en le faisant, les prix des denrées alimentaires vont augmenter, la population va s'échauffer et puis il y aura une révolte. Et en même temps aussi traumatiser la population, d'où les embuscades. Vous savez que même le général des FARDC a été attaqué. Alors nous nous sommes dit, on ne peut pas laisser rester les bras croisés. On va leur empêcher d'atteindre cet objectif, raison pour laquelle depuis samedi, nous y travaillons. Et nous pensons que nous avons pratiquement atteint l'objectif. Ils se sont éloignés. Et je pense que si vous observez, depuis que nous avons commencé, il n'y a pas eu d'embuscade sur cette route. Maintenant, il y a d'autres opérations qui sont larges, du Ronzori jusqu'à Mawouvé. Nous sommes en opération avec les FARDC, mais je ne voudrais pas donner les détails ici.
Les opérations que vous menez sur la route Beni Kassindi, ce sont des opérations conjointes avec les FARDC?
Oui, il y a un détachement des FARDC avec nous.
Votre message à la population de Beni?
Notre message, c'est que nous demandons à la population de continuer de nous faire confiance ou de nous faire confiance. Nous sommes là pour travailler pour sa sécurisation. Nous allons continuer à le faire. C'est une tâche de longue haleine. C'est ça le problème. Et c'est une guerre asymétrique. Mais nous allons tout faire pour la gagner.
Abdourahmane Ganda, merci.
Je vous remercie.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.